Shalom, shalom, shalom les koulam, boker tov, boker tov. On est parti. Alors, est-ce que tout le monde est là? Là, il est bel et bien 10h18, ce qui veut dire que normalement, c'est bon, vous avez terminé le chiour d'avant. Donc, vous me dites si on peut commencer. Faites-moi juste un signe pour me dire qu'on peut commencer. Et à ce moment-là, eh bien, on commence. Oui, oui, non, non. Hop là, hop là, hop là. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, j'espère que oui. Ok, c'est bon, super. Alors, on est parti. Mesdames Boker Tov, la névoa dans tous ses états. Et donc, c'est reparti pour notre étude. Cette fois, on est toujours dans le Sefer Shoftim et nous arrivons au chapitre 13. Chapitre 13 du Sefer Shoftim. Donc, ceux qui ont un Tanakh, évidemment, prenez-le. Perek Yud Gimel, Sefer Shoftim. Alors, le livre de Shoftim, on l'a déjà compris, c'est une espèce de loupe comme ça où à chaque fois, on fait le mal, Dieu nous envoie un ennemi qui nous persécute, on crie, il nous envoie un shofet et tout va bien. Mais cette boucle n'est pas du tout respectée dans l'histoire qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire de Shimshon. L'histoire de Shimshon est une histoire particulièrement différente du reste du Sefer Shoftim. Shimshon, d'abord, il faut comprendre une chose. La place qu'a le livre, l'histoire de Shimshon n'est pas à sa place au niveau de la chronologie. Quel est le rapport de Samson, un juge, avec les prophètes? Ah, très bonne question. Le livre que nous lisons actuellement s'appelle le livre de Shoftim, des juges. Mais ces Shoftim en question étaient également des Nevi'im. C'est-à-dire que toute la période s'appelle la période des Nevi'im. Je vous rappelle que le livre de Shoftim fait partie de ce qu'on appelle le Nar. C'est-à-dire que quand on parle de Tanakh, on a Torah, Nevi'im et Ketuvim. Or, Shoftim fait partie de la partie Nevi'im. C'est-à-dire que toute la période des Shoftim, c'est une période de prophétie. On a étudié la semaine dernière l'histoire de Gideon et on a vu que Dieu s'adresse à Gideon. Je rappelle que la définition d'un Shofet, c'est celui à qui Dieu s'adresse. Donc, si Dieu s'est adressé à Gideon, eh bien, ça veut dire que Gideon était Shofet. Eh bien, il en va de même pour Shimshon. Shimshon est également un prophète. Alors, certes, il fait partie des juges, mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un prophète. OK ? Donc, l'histoire de Shimshon, bien qu'elle soit mentionnée assez tardivement dans le livre de Shoftim, puisque chapitre Yud Gimel, en fait, c'est une histoire qui fait référence à une époque très antérieure, très ancienne. C'est-à-dire que l'histoire de Shimshon se passe au tout début de la période des Shoftim. D'où on le sait? Eh bien, on le sait tout simplement du début de l'histoire, lorsqu'on nous raconte où est-ce qu'ils habitent. Et lorsqu'on voit que ce Shevet Dan, parce que Shimshon vient de Dan, on y reviendra dans deux secondes, eh bien, on voit qu'ils habitent Ben Tzoral et Ben Eshtaol, c'est-à-dire, ils habitent dans le Gush Dan, finalement. Eh bien, s'ils habitent encore dans le Gush Dan, c'est que c'est très tôt, puisque on verra dans le chapitre suivant, dans Pesel Micha, et en fait, qui se trouve lui aussi assez tôt dans l'époque, eh bien, la tribu de Dan va monter dans le nord. Va monter dans le nord et va s'installer là où il y aura la ville de Dan, finalement. On peut voir aujourd'hui en Israël, dans les vestiges archéologiques, dans le nord d'Israël. Donc, ça veut dire que cette histoire de Shimshon est d'abord très antérieure. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît tardivement? Eh bien, parce que tu ne peux pas intégrer le message de Shimshon comme message premier. Le message premier de Sefer Shoftim, c'est ce qu'on a étudié. D'abord, avec l'identité tribale qui doit devenir une identité globale, et avec les différents Shoftim, on a étudié Gideon, qui nous apporte l'alliance qui a été faite entre Dieu et Klal Israël. Le problème de Shimshon, c'est qu'il va agir seul. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Vayi ish Echad, Alors, verset Aleph, Vayosifu bene Israël la sotara bene Hashem, Vaitenem Hashem, Beyad Pelishtim, Arbaim Shana. Donc, ça fait 40 ans maintenant qu'on subit les pressions des Philistins. Vaye Ishechad Mitzora, Mimishpachat Adani, Ushmo Manoach. Ishechad Mimishpachat Adani. Donc, il est de Shevet Dan. Ok, qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, ça nous apprend une chose très importante. Shevet Dan, eh bien, est une tribu qui est la tribu antagoniste de la tribu de Yehuda. Ils ont tous les deux les mêmes plus ou moins caractéristiques. Seulement un va être au top et un va être au down. C'est-à-dire, les deux sont appelés le lion, Gour Arié Yehuda. Alors qu'on verra également dans la paracha de Vezot à Beracha, que Dan, Gour Arié, Yezanek Minabashan. C'est-à-dire que Dan est également un lion, Yehuda est également un lion. De la tribu de Yehuda va sortir un monsieur qui s'appelle Betzalel, qui va construire le Mishkan, avec l'aide d'un autre monsieur qui s'appelle Aholiav Ben Achisama, le Maté Dan. C'est-à-dire que tout le temps, dès que tu as Yehuda, tu as Dan. Et c'est pour ça que nos sages diront En lecha meule shebashvatim meacher shevet Yehuda, ven lecha yarud shebashvatim meshevet Dan. Le top des tribus, c'est Yehuda, et le plus bas des tribus, c'est Dan. Et c'est pour ça qu'on nous dira que Dan a anan ayapoltam. C'est-à-dire que la tribu de Dan avait tendance à être expulsée de la nuée protectrice qui fermait le camp d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient à measef shel kol hamachanot. C'est-à-dire que Dan, c'est la dernière tribu, c'est ceux qui ramassent les derniers. Et le danger de celui qui est toujours en arrière pour ramasser les derniers, c'est qu'à un moment donné, il soit vraiment trop à la traîne. Manoach, il est du chevet Dan. Il a une femme. Son nom n'est pas mentionné dans la Torah. Son nom n'est pas mentionné dans la Torah, Beseder Gamour. Mais dans nos sages, on sait qui c'est. Puisqu'on nous dit que Ishto akara velo yalada, mais c'est qui Ishto? Eh bien, nos sages nous disent que Ishto shel Manoach n'était autre qu'une femme avec un nom très spécial, puisqu'elle s'appelait Tselponi. Tselponi n'était autre que la fille d'un monsieur qui s'appelait Chour. Chour était le mari de Myriam et était un des dirigeants de la tribu de Yehuda. En d'autres termes, Shimshon a des parents très particuliers puisqu'il a un père qui vient de Dan et une mère qui vient de Yehuda. C'est assez rare à l'époque qu'on se mariait entre tribus, mais là, il s'agit d'un mariage tout à fait particulier parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux sont le lion et les deux sont le potentiel du messianisme. Yehuda, on sait très bien que Mashiach ben David. Mais lorsque Yaakov va voir la naissance de ses fils, lorsqu'il va voir la naissance de Dan, eh bien, nous disent nos sages qu'il a ressenti que c'était le Mashiach qui allait arriver là maintenant. Et c'est pour ça qu'on nous dit Dan yadin amo ke achad shifte Israël, ka echad. C'est-à-dire qu'il est le un, celui qu'on attend tous. Shimshon, d'ailleurs, ça veut dire ça, c'est le soleil. C'est celui qui va éclairer le peuple juif. Et lorsque, nous disons ça, lorsque Yaakov a vu la fin de Shimshon, alors il a poussé un cri pour Shimshon qui dit « L'Ishuatra kiviti Hashem ». J'ai vu qu'il y avait un espoir tellement grand qui va tomber à Nitzarich Yeshua. Donc, qu'est-ce que c'est que cette famille-là? Cette famille-là est une famille très particulière. Très particulière, qui vit dans une époque très particulière. Vayera malach Hashem el Aisha, vayomer elea inena atakara, velo yaladet, veharit veyalad ben. Il y a ici un ange qui vient lui dire, écoute, tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et avoir un enfant. Il a fait, c'est pas mal cette histoire. Maintenant, je vous rassure. Hein. Ah non, je vous rassure. Un ange qui vient annoncer à une femme toute seule qu'elle n'a pas d'enfant et que maintenant elle va avoir des enfants. Bon, tu comprends que les chrétiens, ils ont fait copier-coller direct entre cette histoire et leur histoire. Nous, c'est... Mais pourquoi le malach, il se dévoile à elle et pas à lui. Eh bien, tout simplement pour montrer que l'idéal de cet enfant doit se rattacher à Shevet Yehuda. Et c'est justement ce qu'il ne fera pas. Alors venez, on va continuer dans l'histoire. Ve'ata ishammerina ve'al tishti yain ve'shechar ve'al tochli kol tamé. כי הנחה הרב היולד את בן ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה נער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. Il doit être nazir. Nazir? Pas mal. אבל למה? D'ailleurs, c'est pas un nazir stam. Stam nazirut, nous dit la Torah, c'est 30 jours. Lui, c'est un nazir depuis qu'il est né. Et ce, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il meure. Donc ça, ce n'est pas une Nézirut normale. C'est une Nézirut qui veut nous ramener à quoi ? À Adam Harishon. C'est-à-dire Mamash à la dimension de Tikkun HaOlam. Pourquoi ? Eh bien, c'est quoi le Nazir Mibeten ? Il ne se coupe pas les cheveux, il n'utilise pas les produits de la vigne. En d'autres termes, il ne se met pas en contact avec tous les progrès de la civilisation. C'est quoi les progrès de la civilisation ? La coupe de cheveux, c'est le moment où l'homme a décidé de ne plus être naturel. Le vin, c'est lorsqu'on produit quelque chose, on va manufacturer quelque chose qui va changer ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné des raisins, moi, je fais du vin. En d'autres termes, être nazir mi beten, c'est venir continuer le projet de Adam Harishon, à savoir Tikkun Olam b'Malchut Shaddai. D'ailleurs, vous savez que le Mashiach, dans le livre de Yechezkel, s'appelle Ben Adam. On a commencé à Adam et il faut arriver à Ben Adam. Ok ? Et donc Shimshon est véritablement celui qui peut porter et incarner cette réalité. Le problème, c'est que son père, à Shimshon, eh bien, il vient de Shevet Dan, comme on a dit. Or, le problème des Danim, c'est qu'ils sont des outsiders. On a dit, Emayoub, ils étaient ceux qui étaient rejetés de la nuée protectrice. Ils ont toujours été ceux qui veulent s'exclure du peuple juif. À tel point que dans le livre Eldad Adani, alors ce livre Eldad Adani, c'est un livre qui nous vient d'un monsieur qui s'appelait Eldad Adani, qui est venu chez les Géonim, donc il y a près de cela 1100 ans à peu près, qui est venu d'Éthiopie et qui a prétendu être de la tribu de Dan, et il a raconté comment la tribu de Dan est arrivée en Éthiopie. Ce qui est d'ailleurs très intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Juifs d'Éthiopie se revendiquent de la tribu de Dan. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on dit là-bas dans le livre qu'un jour, Yerovam ben Nevat, donc ça nous amène à l'époque de la Malchut Israël, leur a demandé à eux, les Danim, qui étaient de bons guerriers, de venir se battre contre Israël. Contre la tribu de, enfin, contre le royaume de Yehuda au sud. Et à ce moment-là, les Danim ont dit, on ne veut pas participer à cela, et ils sont partis. Ils sont partis jusqu'aux sources de Nahal Kishon, et donc ils sont arrivés en Éthiopie. Pourquoi lui, comme Shmuel d'ailleurs, ont été prédestinés à Nisra David, alors que même la Torah, qui n'est pas fan de ce genre d'attitude, restreint à un mois. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la Torah, lorsqu'elle parle de Nézirut, elle n'est pas fan de ça, elle dit c'est un mois, parce que c'est une attitude temporaire où je ressens le besoin de me rattacher à la Kedusha. Shimshon, Veshmuel, c'est pas pour ça qu'ils sont nazirim. C'est-à-dire qu'ils sont pas nazirim parce qu'ils sentent le besoin pour l'instant de se mettre un surplus de Kedusha. Ils sont nazirim parce qu'ils viennent pour les taken chet Adam Harishon. Ok ? Et donc, son père, c'est Manoach. Vous savez, Manoach, dans le Talmud, on nous raconte qu'il a un contentieux avec un autre chauffette de son époque. Et c'est ce qui nous montre à quel point le livre de Shoftim est, enfin, l'histoire de Shimshon est première. Il y a un autre chauffette dans le Tanakh qui s'appelait, alors tenez-vous bien, Ivtsan de Bethléchem. Ivtsan de Bethléchem. C'est qui ce Ivtsan ? Eh bien, d'après le livre du Tanakh, dans le livre de Shoftim, on ne sait pas grand-chose de lui, à part qu'il avait 30 fils et 30 filles. 30 fils et 30 filles, donc ça veut dire qu'il a dû faire 60 mariages. T'imagines, c'est pas mal. Et dans ces 60 mariages, en fait, il a fait à chaque fois deux festins, un dans sa maison et un dans la maison de Ratan ou de la Kala, c'est-à-dire de ses beaux, de ses, des beaux-parents, enfin, vous avez compris, de l'autre famille, quoi. Donc, il a fait 120 Seudot. Et nous dit la Gemara, « Ubekulam lo izmin et manoach ». C'est-à-dire qu'on prend le temps dans la Talmud de nous dire que dans ces 120 Seudot, il a invité plein de monde. Mais il a fait bien attention de ne jamais inviter Manoach. Il semblerait qu'entre ce Iftsan que nos sages nous expliquent comme étant Boaz, Boaz qui va être donc l'un des dirigeants de la tribu de Yehuda, qui va être le mari de Ruth, qui vont amener au roi David, eh bien, on voit que Boaz de la tribu de Yehuda a un grand contentieux avec Manoach de la tribu de Dan. Et donc, le problème de Shimshon, c'est qu'il est le fils de Manoach. Il aurait dû être le fils de sa mère plus qu'il n'était le fils de son père. Alors, regardez, on va voir que ça va avoir des incidences. Si on veut pouvoir couvrir toute l'histoire de Shimshon, je vais volontairement aujourd'hui sauter quelques passages de notre histoire. Donc, je saute toute l'histoire où le malach, enfin, la femme vient dire à son mari, voilà, j'ai vu un malach et lui, il n'accepte pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ici une volonté de rejeter le dévoilement divin. Rejeter le dévoilement divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, juste, je termine ce petit passage. « Va t'avo Aïcha, va tomer l'Aïcha, la Ishela, va yomer Ishela, Isha Elohim ba elai, ou mareu ke mare malach Elohim, nora meod, velo shil tiu, hemizehu, ve et shemo, lo igid li. » C'est-à-dire que la femme me dit, voilà, j'ai rencontré un malach, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Yomer li, hinach ara veyolad ben, veata al tishti yain veshechar veyolad okhli, kol tuma, ki nazir Elohim, yanar mina beten ad yom moto. Donc voilà, elle raconte l'histoire et réponse de Manoach, veyetar Manoach el Hashem, veyomer bi Adonai, isha Elohim asher shalachta, yavona od elenu, veyorenu mana asel anar ayolad. C'est-à-dire que Manoach, il n'y croit pas. Il ne croit pas à ce que sa femme, elle dit. Elle dit ça, c'est une combine des Judéens. Donc, si tu veux vraiment m'envoyer un Isha Elohim, ramène-le moi. Et donc, rebelote, bah, c'est parti. Cette fois, Shufam, il se dévoile à cette femme. Et là, on voit bien que bah, c'est volontaire qu'il se soit dévoilé à elle, à Tselponi, et pas à Manoach. Donc, elle aurait dû comprendre que c'est vers son côté que ça va. Mais non, elle vient tout de suite le dire à son mari. Et à ce moment-là, eh bien, Manoach va voir également le Isha Elohim. Va te maher Aisha, va tarot, va taged le Isha, va te maher Elav, inen, nira Elai Aish, asher ba bayom Elai. Vayakom vayelech Manoach, reishto, vayavo el Aish, vayomer lo, ata Aish asher dibarta, el Aisha, vayomer ani. Et à ce moment-là, le Malach se dévoile donc à Manoach, mais toute l'histoire ne nous intéresse pas jusqu'au moment où ben, Manoach lui fait une espèce d'offrande, et là, où elle est be'esh ha-shamayma. À ce moment-là, il est « Vayomer malach Hashem el Manoach » au verset, donc, « Tetzayin »« Im ta'tzereni lo uchal belachmecha ve im ta'ase ola la Hashem ta'alena ki lo yada Manoach ki malach Hashem hu. Vayomer Manoach el malach Hashem mi shemecha כי יבוא דבריך וכיבד דנוחה. ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. ויקח מנוח את גידי העיזים ואת מנווה המנחה, ויעל אל הצור להשם. אלא כסכיסי בסה, ויעל בעלות עליו מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך השם בלעב המזבח, ומנוח ואשתו רואים ויפלו פניהם ארצה. צריך כאילו קומפרן כלסג'י באמת המלאך השם, quand il monte dans les flammes avec l'offrande. C'est la fée mode. Ils montent avec les flammes dans l'offrande et ils comprennent que c'est Malach Hashem. Alors, quelle est leur réaction? Ben, leur réaction, c'est « On va mourir !» C'est-à-dire que pour Manoach, la rencontre avec Dieu est quelque chose qui détruit. C'est pas pour rien que nos sages vont nous dire que la tribu de Dan, Em Kula Mayu Ovde Avodazara. Entre parenthèses, l'histoire qui suit l'histoire de Shimshon, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire tout simplement de Pessel Micha, où on voit que la tribu de Dan va tous servir, ils vont tous aller servir la statue de Micha. Donc, ils ont un vrai problème avec le lien avec Dieu. Shimshon va être justement ce Shilouv. Il a un problème avec le côté centralité du dévoilement de Dieu qui passe par la tribu de Yehuda et par le peuple juif. Ça, Shimshon, il n'arrive pas à gérer. Mais d'un autre côté, il est aussi le fils de sa mère. Et donc, il a une relation très profonde avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, eh bien, voilà ce qui se passe. Sa femme, elle comprend très bien que ce n'est pas du tout ça. Et elle lui répond, « Tomer lo ishto, luch hafet Hashem la amitenu, lo lakar miyadenu ola o mincha. » Si Dieu il avait voulu nous tuer, il nous aurait tués. Donc non, on n'est pas là, on n'a pas vu ça pour mourir. On voit bien la dualité entre Manoah et Ishto. D'un côté, une femme qui comprend très bien quel est le projet qui est en train de se jouer. Il y a ici un véritable dévoilement de Dieu et son fils va « Echel lo shia et Israël » alors que son père a beaucoup de mal avec ça. Parce que son père, son lien à Dieu est extrêmement faible. Et au Veda Vodazara. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vatelada Isha Ben Vatikra et Shemo Shimshon Vaigdal Anar Vaivarcheu Hashem Vatachel Ruach Hashem Lefamo Bemachanedan Ben Tzorao Ben Ishtaol. Pour ceux qui voulaient savoir si Shimshon était un prophète, et ben voilà. Vatachel Ruach Hashem Lefamo. C'est-à-dire que oui, ça y est, Shimshon est Mina Nevim. Aval Shimshon tout de suite. Son rôle est de le Hoshia et Israël. Vemawose, va yered. Va yered, Shimshon Timnata. Va yered, Timnata. Mais de qui il peut avoir pris cette idée-là de descendre à Timna? Peut-être qu'il a voulu aller voir le champignon de Timna. Peut-être qu'il était en route pour aller à Eilat, se faire un peu de plongée. Qu'est-ce qui lui a pris de descendre à Timna? Vous connaissez quelqu'un qui est descendu à Timna? Ben oui. Qui est descendu à Timna? Sinon, Yehuda. Yehuda, Yehuda, fils de Yaakov, va yered Yehuda me'etechav. Et il arrive à Timna. Et là, il va prendre une femme. Shimshon. Mais c'est spirituel. Alors, d'abord, ce n'est pas que spirituel. D'abord, c'est aussi matériel concrètement, puisqu'il habite entre Tzora et Eshtaol, qui est dans la montagne, dans les montagnes de Judée, et il arrive à Timna, qui est topographiquement plus bas, puisque Timna, c'est dans la Arava. Donc, d'abord, ce n'est pas que spirituel, mais évidemment que tu as raison que c'est également une chute spirituelle. Et je dis, son exemple, c'est Yehuda. Yehuda également, va yered Yehuda me'etechav, c'est aussi spirituel évidemment. Et il va là-bas chercher une femme, Yehuda. Il va se marier à Timna. Et en fait, c'est quoi la femme qu'il cherche? Eh bien, après plein de péripéties, au final, il veut se marier, il ne le sait pas, mais avec Tamar, pour faire la lignée messianique. De Yehuda et Tamar va sortir Peretz, David. Donc ici, on a un Shimshon qui prend son rôle de Shemesh très à cœur. אבל זה שמש קטן. זה לא ממש כי שמש הוא מגן השם אלוהים. זה שמשון, שמש קטן. וירד שמשון תמנתה ויר אישה בתמנתה מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאבי ולאמו ויאמר אישה ראיתי מתמנתה מבנות פלישתים ואתה קחו אותה לי לאישה. שמשון, la première chose qu'on sait de lui, c'est quoi? C'est bon, papa, maman. Voilà, alors j'ai rencontré une fille, très bonne famille, j'ai envie de me marier avec elle. Ah bon, c'est quelle famille? C'est la famille Bensoussan? C'est la famille Blumenthal? C'est qui? Non, 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 c'est une philistine, c'est une plishtite. Quoi? C'est tout ce que Shimshon il a à faire? De nous ramener une plishtite? Regardez la réponse, la réaction. Regardez la réaction. Vayomer lo aviv veimo, c'est-à-dire que c'est papa qui parle. Hen mibnot achecha v'chol ami isha ki ata oler lakachat isha miplishtim ha'arelim. Pas bête. C'est tout ce que tu as trouvé? Une chikte? Tu ne pouvais pas trouver une fille bien de chez nous? Une fille du peuple juif? Choum d'avar, tu n'as pas trouvé autre chose? Ça, c'est ce qui dérange papa. Pourquoi c'est ce qui dérange papa? Eh bien, parce que Omnam Manoach, il a un problème avec sa relation avec Dieu, mais Manoach est complètement intégré dans son identité juive. C'est-à-dire que pour lui, ça ne va pas du tout, cette histoire. Certes, on est un petit peu excentré du peuple juif, même si, je répète que c'est une époque où le chevet de Dan n'est pas encore parti, mais tu ne vas quand même pas te marier avec une plishtite. Pourquoi sa mère, elle ne réagit pas? Alors oui, il y a marqué « Vayan, c'est « Vayomer lo aviv veimo » mais puisque c'est marqué « Vayomer lo aviv veimo », celui qui est marqué en premier, c'est Aviv, donc c'est lui qui parle. Pourquoi elle, elle n'est pas tellement embêtée par cela? Bien, pour une raison très simple. Parce qu'elle, elle comprend très bien, puisque c'est elle qui a reçu la névoie, elle comprend très bien que, qu'il se passe un truc là-bas. Que si Shimshon est en train d'aller vers les Plishtites, c'est pas pour rien. Et qu'est-ce qui se passe? Viens regarder ce qu'il répond Shimshon. Shimshon répond, Vayomer, Vayomer Shimshon, elle a vive. Donc on voit bien que c'est papa qui pose un problème. Ota kachli ki i yashra be'enai. Mazé. D'un premier côté, on a dit, Vayaged, isha ra'iti. Et maintenant, yashra be'enai. Dans la Torah, quand on nous parle de la Isha Yefat Tohar, on nous dit que lorsque Kititse la Minchama, Veraita Bashivia. Nos sages nous disent qu'est-ce que c'est Veraita Bashivia? Raita et Akdusha Shet Munaba. C'est-à-dire, il y a des étincelles de sainteté qui sont également chez les Goïm. Et c'est exactement ce que notre ami Shimshon est en train de dire. Raiti Sham Kdusha. Il faut que j'aille prendre ce qu'il y a à prendre chez les Plishtim, justement pour pouvoir les battre. Justement pour pouvoir les battre, il faut que je comprenne quelle est leur force spirituelle, quelle est la Nekuda de Kdusha qu'il y a là-bas. Donc je vais descendre là-bas et là-bas je vais trouver. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, on remarquera que nos sages vont faire une comparaison entre trois personnages, entre Moshe, Aaron et Shmuel, ce que nous dit la Gemara, Moshe, Aaron ou Shmuel bedoram, que Gidon, Shimshon veYiftach bedoro. C'est-à-dire qu'on compare Gidon à Moshe, pour les raisons qu'on a vues la semaine dernière, mais la Gemara compare également Shimshon à Aaron. Aaron aussi est tombé, est descendu de son niveau pour faire le veau d'or pour sauver les Bnei Israël. Et donc Shimshon, il dit pareil. Je sais très bien que les Plishtim, c'est des Arélim. Et puis on va voir de la suite du texte qu'il n'est pas fan des Plishtim. Il est là pour les éclater. Mais il comprend qu'il a quelque chose à aller prendre là-bas pour pouvoir les battre. Alors justement, Ve'avive'imo lo yadou ki me'ashem hi ki to'anahu mevakesh les Plishtim. ויתאי פלישתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואביו ואימו תמנתה ויבואו אל כרמי תמנתה. Il passe donc, ils arrivent vers Timna, et pour, c'est le chemin, il passe par les vignes de Timna. Et à ce moment-là, on nous dit que Shimshon, il va avoir son contact, son combat avec le lion. Et il éclate. Seulement, ses parents ne sont pas au courant. Comment c'est possible? Ils marchent ensemble, non? Ben oui, ils marchent ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent aux vignes. Shimshon, il est nazir. Donc, il ne rentre pas dans la vigne. Il fait un détour. Et c'est dans ce détour qu'il va éclater le lion. Tov, Seder, Vazma. Eh bien, une fois qu'il a éclaté le lion, il n'a rien dit et il est parti se marier. Vatitzlach alav roach Hashem, vaychasseu keshasari umeuma. En beyado. Velo yigid la'aviv velo yimo asher asa. Vayered vaydaber leisha, vatishar b'enei Shimshon. Vayashov b'yamim lakachata. Et donc, quand il revient, bon, ceux-là, ils ont fait le vort, tu vois. Et quand il revient, ils ont fait les fiançailles. Et quand il revient plus tard, on ne sait pas vraiment quand, eh bien, c'est pour le mariage. Il passe par l'endroit où il a tué son lion et il va voir la fameuse névoie où on nous dit que, eh bien, est sorti, il voit des abeilles qui ont fait du miel dans la carcasse du lion. Et qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Ils ont fait de la, du miel dans la carcasse du lion. Et il va dire de ce qui était le prédateur, il est devenu le ma'achal. Et de ce qui était mar, yatsamatok. C'est ça la, la devinette qu'il va faire aux Philistins qui sont présents en mariage. Il leur dit, alors je saute quelques, quelques versets, et il dit, voilà, je vous fais une question. Si vous répondez, je vous donne plein de choses. Bon, d'abord, c'est sûr que tu ne peux pas trouver. Que les choses soient claires. Personne ne peut trouver ça. Il faut que, finalement, la femme qu'il a épousée le trahisse et dise la réponse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Plus tard, le roi Salomon tombera dans le même piège. Il n'a pas appris de Shimshon. De quel piège tu parles, mon ami? Où le roi Salomon va tomber? Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Éclaire-moi, dis-moi le fond de ta pensée. Quoi qu'il en soit, avant que Alex nous dise de quoi il parle, viens, venez, on va continuer. Donc, notre ami Shimshon, il veut faire passer un message. Qu'est-ce que ça veut dire que du lion est sorti le miel? Me'am ochel yatsama achal. Du prédateur est sorti celui qui a été éclaté. C'est un message qu'il donne aux Philistins. Omimar yatsa matok, que c'est Omimar yatsa matok, eh bien, de toute la jifa, de tous les problèmes qui sortent de vous, les Plishtim, moi, je vais être capable d'en sortir le matok, d'en sortir ce qu'il y a à sortir. Toute la péoula de Shimshon, c'est de dire, moi, je suis capable d'aller sortir cela. Est-ce que vous vous rappelez? Parce que si Shimshon, il comprend qu'il y a tellement d'étincelles de sainteté à aller ramener des Plishtim, pourquoi il n'enseigne pas ça au clan d'Israël? La malo? Eh bien, pour une raison très simple. Il y a des endroits où le peuple ne doit pas aller, où le tzaddik peut aller, parce que lui, il est capable de ne pas tomber. Mais où le peuple ne peut pas aller. Ce n'est pas une façon de se comporter de manière générale dans le peuple juif. C'est une façon qui est nécessaire, mais qui doit passer par d'autres. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des Netzotzot HaKedusha. Shlomo HaMelech, il n'est pas tombé avec ses femmes, pas du tout. Chas v'shalom, je ne vois pas de quoi tu parles. Shlomo, il s'est marié avec plein de femmes, nous, mais ça énervait. Mara. Il se trouve qu'après, il est tombé. Mais là, Shimshon, il n'est pas tombé à cause de ses femmes. Enfin, du moins, pas de celle-là, en tout cas. Elle l'a trahi. Bon, ben, d'accord, ben, il s'est barré. C'est-à-dire qu'au contraire, Shimshon, il a montré que ben, si quelqu'un te trahit, ben, tu t'en vas. Pas shoot. De quoi on parle? Abotai, il y a des choses qui sont nécessaires. Des étincelles de sainteté qui sont nécessaires. Mais si tu y amènes le peuple juif, il va sombrer. La grande leçon de Shimshon, la première grande leçon de Shimshon, c'est que Shimshon a un rôle qui doit être joué, mais qui est un rôle de Yechidei Sgoula. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça à cet endroit du Tanakh? Eh bien, parce que nous sommes en chemin vers la royauté. Nous sommes en chemin vers la, finalement la cohésion globale du peuple juif, où on a un chemin qui est celui du Ham Israël et on y va. Eh bien, c'est très important que tu saches qu'il y a également des exceptions. Une exception ne peut remplir son rôle que si c'est une exception. C'est l'exception qui confirme la règle, on dit en français. Et donc, Shimshon a une façon d'agir qui est propre à lui. S'il commence à la donner au Bnei Israël, on va partir en cacahuète. C'est comme ce que va dire Zimri. Vous savez, dans l'histoire de Zimri et de Pinchas, lorsque Zimri va prendre cette femme de Midian et va l'amener au sein du peuple juif, il se met devant Moshe et Moshe a du mal à répondre. Pourquoi? Parce qu'il dit, si celle-là m'est interdite, qui t'a permis la tienne? Parce qu'elle est midianite, mais la tienne aussi, Moshe, elle est midianite. Nahon, Moshe, il est capable d'aller dévoiler les étincelles de sainteté qu'il y a à Midian. Mais si Zimri commence à rentrer les midianiotes dans tout le peuple juif et qu'on commence à aller avec elle, on va tomber. Comme ce qui s'est passé avec tous les autres qui ont été voir les Midianites. Donc, en d'autres termes, Shimshon a un rôle à jouer en tant qu'outsider. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira tout au long de son livre. Quand les Bnei Yehuda disent à Shimshon, écoute, ce que tu fais nous met en danger. Et oui, alors je poursuis. Donc, je saute cette histoire. Vaim Yamim, donc on est au chapitre Tet Vav cette fois. Vaim Yamim, qu'est-ce que j'ai. Oui, voilà. Vaim Yamim, Yabimek, Sir Hitin, Vaiv Koda, Shimshon, et Ishto, Big Deizim, Vayomer Avoa, El Ishti, Achadera, ולא נתנו אביה לבוא. ואומר אביה, אמור אמרתי כי שנוא שנאתם, ואתנה למראיך. הלא אחותה כתנה טובה ממנה, ותהינה לך תחתיה. Voilà toute une histoire où on voit que Shimshon, après avoir commencé à éclater les Plishtines, puisqu'il est rentré dans la ville de Ashkelon, et il a éclaté les Plishtines pour payer son dû aux Plishtines qu'il avait trahi. Donc on voit très bien que Shimshon a commencé sa péoula contre les nations. Eh bien oui, tu as raison. Shlomo prendra des femmes qu'il convertira, prendra les étincelles de sainteté des nations. Mais c'est bidouk, machekara. Ah, il est gagne tombé, Nahon. Il est gagne tombé, mais il s'est relevé et il a écrit Kohelet. Donc, finalement, ce qu'il a fait, c'est besader. Ouais, Shlomo, c'est un rachat. Chasve shalom. Bekitsour, donc Shimshon va commencer maintenant sa péoula contre les Plishtim. Et quand il commence sa péoula contre les Plishtim, alors on voit que ça va crescendo. D'abord, il a tué quelques Plishtim pour rembourser les Plishtim qu'il avait trahis. Ensuite, va y aller Shimshon, va y kod shloshmeot shualim, va y kar lapidim, va y fen zanav el zanav. C'est-à-dire qu'il fait la politique de la terre brûlée. Il explose les champs des Philistins. Il est en train de porter atteinte à toute la commande en tour philistine. Et à ce moment-là, eh bien, les Bnei Yehuda, vayalou plishtim, vayachanou be Yehuda, vaynatshu balechi, vayomru ish Yehuda, lama elitam alenu. C'est-à-dire les plishtim, ils viennent faire des représailles à Yehuda. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la région où chez les Bnei Israël, ceux qui gèrent, c'est Yehuda. Tzora, Eshtaol. Et donc, ils viennent voir Yehuda, ils disent, bon, bah, il est chez vous celui-là, vous allez voir ce que vous allez prendre. Et donc, les Bnei Yehuda, ils viennent voir Shimshon. Comme on a dit, Shimshon, il est anti-Memsadi. Shimshon, il ne marche pas avec les institutions. Et donc, les Bnei Yehuda, ils disent à Shimshon, mais ce que tu fais, nous met tous en danger. Shimshon, il dit, vous avez raison. Vous savez quoi? Vendez-moi aux Philistins. Comme ça, ils verront bien que ce n'est pas vous, mais moi, je continue à faire ce que j'ai à faire. En d'autres termes, Shimshon n'est pas là pour réunir le peuple juif. Il n'est pas là pour faire ce que Gidon a fait. Shimshon est là pour dire il y a des choses que moi je dois faire seul. Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva. Une prophétie qui sert les générations nirteva. Une qui ne sert pas les générations lo nirteva. Qu'est-ce qu'on apprend de Shimshon? Eh bien, on apprend une chose de Shimshon, qu'il y a certains chemins qui ne peuvent pas être pris par le mainstream. Il y a des chemins qui sont des chemins particuliers qui doivent être empruntés, mais pas par tout le monde. Est-ce que c'est dangereux de dire cela? Ben oui, parce que tu pourrais très bien te dire, j'entends le chiour, et je me dis, ok, alors moi je suis un de ces quelqu'un-là. Non, il va falloir que tu bois beaucoup de soupe avant d'être ce quelqu'un-là. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'il y a des gens qui agissent pour le peuple juif, pour le dévoilement de Dieu, et qui emprunte des chemins qui semblent problématiques. Nahon. Des fois, d'ailleurs, c'est Béal Korcham. Dites-moi, c'est bien d'être un, je ne sais pas moi, d'être un, comment on dit, un mafioso, un barbare, un trafiquant d'armes, trafiquant de tout ce que tu veux. Qui te saura, mec, vaut mieux pas être pas ton copain. Non, c'est pas bien, d'accord ? Mais en même temps, ça crée des hommes qui sont... Ah ouais ! Un mec qui a passé sa vie à échapper à la police ou à se battre, bah, le mec, il connaît deux, trois choses. Alors, c'est pas bien, faut pas faire ça. D'accord ? Mais des fois, Akadosh Baruch Hu, il utilise ces gens-là. Par exemple, il a utilisé les frères Bielski. Les frères Bielski, Tuvia Bielski et ses frangins, étaient d'une famille de trafiquants bien connus en Biélorussie. Ce n'étaient pas des mecs très sympathiques. Mais quand les nazis sont arrivés, au début, ils sont enfuis, trois frères. Mais très vite, ils sont devenus les protecteurs de près de 2000 personnes qu'ils ont protégées dans les forêts biélorusses et qu'ils sont défendus contre les nazis. Et ils ont réussi à sauver toute une communauté qui a vécu dans les forêts. Pourquoi ? Parce que c'était des mecs qui savaient le faire. Un mec qui aurait été un tzadik toute sa journée, il n'aurait pas été capable de faire ça. Shimshon, c'est un tzadik qui s'habille comme un guerrier qui n'a aucun scrupule. Il n'est pas, Shimshon, un modèle l'Hikoui. Shimshon n'est pas quelqu'un qu'on doit copier. Mais Shimshon est quelqu'un de qui on doit apprendre. De la même façon, Nadav et Avihu ne sont pas copiables. Mais Nadav et Avihu nous ont appris quelque chose. L'abnégation complète pour Akadosh Baruch Hu. Shimshon comprend que des fois, eh bien pour sauver le peuple juif, il faut faire des choses qui ne sentent pas bon. Il faut salir les mains. La grandeur de Shimshon, c'est sa capacité à descendre. Sa capacité à descendre, à se salir les mains et à comprendre son ennemi. On pourrait penser que Shimshon s'enfonce avec les Plishtim. Iné, on continue dans notre histoire. On continue dans notre histoire, donc, après que les Bnei Yehuda lui dit « Ok, très bien, capturez-moi, machin. » Mais finalement, Shimshon, qu'est-ce qu'il va faire ? Shimshon, il continue. Il continue à se battre contre les Plishtim. Et on va même nous dire à un moment donné, Vayelech Shimshon Azata, Vayar Sham Isha, Zona, Vayavo Elea. Quoi, c'est ça qu'on va apprendre de Shimshon ? Ma Koré. Mais non ! Parce qu'il va là-bas pas pour aller avec elle. Il va avec elle pour pouvoir faire sa mission. Mamashkacha. Rabotai, on a tous entendu parler de Kamel Amin Tabat. De son vrai nom, Eli Cohen. L'espion 007 version Israël. Mais Kamel Amin Tabat, quand il est en Syrie, je ne sais pas si en Israël, il était Shomer Torah, Mitzvot, machin, je m'en fiche. Mais tu comprends que là-bas, il n'a pas fait des Mitzvot. C'est sûr que Shabbat, il ne faisait pas, qu'il ne mangeait pas kasher, et c'est sûr qu'il a eu plein de relations avec des femmes, justement pour être accepté dans les cercles les plus... C'est assourd. Nachon, il fait ça parce qu'il doit protéger Israël. Est-ce que c'est quelque chose que je vais enseigner à mes enfants à faire ? Non ! Mais est-ce que je comprends que Eli Cohen, c'est un tzaddik ultime pour le peuple juif ? Je dis oui, à 100%. Pourquoi Shimshon y va vers cette Isha Zona Be'aza ? C'est pour rentrer à Gaza, qui est la capitale des Plishtim. Et pourquoi il va là-bas ? La Azatim les morts, Ba Shimshon, Ena, Vaya Soku, Vayer Vulo, Kola Laila, Besha Rair, Vayetrar Shu, Kola Laila, les morts, Ad Ora Boker, Vayar Genu. C'est-à-dire qu'il s'est caché dans cette maison close, parce qu'il savait que c'était le seul endroit à Gaza où il pouvait mettre en place son plan. En Malahasot. S'il était venu et qu'il avait dit non, moi je ne couche pas avec. Non, je suis. Kadosh, je suis juif. Ils auraient appelé la Mishtara tout de suite. Mais il est venu, il a donné un sac de pièces d'argent, je ne sais pas quoi. Il a dit, je prends cette dame-là pour la nuit. Ils ont dit, ok, c'est très bien, c'est ce qu'on fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ashkav Shimshon atratzi alayla, vayakom bechatzi alayla, vayechos bedaltot sha'arayir, ubishta mezuzot, vayesa'em im babariach, vayasem al ketefa, vayalem al rosh ahar, asher al pene chevron. C'est-à-dire que son but, c'est quoi ? C'est de montrer à Azza qu'ils ne sont plus protégés. De montrer aux Plishtim que c'est le début de la fin pour eux. Et où est-ce qu'ils plantent les portes ? Devant Hebron, la capitale de Malchey Yehuda. La capitale, pour l'instant, de Shevet Yehuda seulement, mais donc qui va être une ville centrale pour l'identité d'Israël. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, si vous voulez, Shimshon, tout ce qu'il fait, c'est en contradiction avec le manuel, Aval à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça la grandeur de Shimshon. Pourquoi le Tanakh nous raconte l'histoire de Shimshon ? Bien pour que tu saches que évidemment qu'on doit plus ressembler à Gideon, évidemment qu'on doit plus ressembler à Moshe, évidemment qu'on doit plus ressembler. Aval, sache qu'on aura besoin dans l'histoire de Shimshonim. On aura besoin dans l'histoire de Shimshonim. Et on en a eu, oh combien on en a eu dans l'histoire, des gens qui ont été capables de donner leur vie pour Israël en contradiction avec ce qu'Israël nous dit. Oh, combien on en a eu dans l'histoire. On en connaît certainement tous, des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à prendre sur eux le gnout qu'on va dire sur eux, mais ils font ça pour le peuple juif. Zenachon. Et donc, Vayacharechen Vayehavisha Benachal Sorek Ushma Delila. Et là, on a un problème. Et là, on a un problème parce que Shimshon tombe amoureux. Cette femme-là, Delila, on ne sait pas si elle est plishtite ou pas. Autant les autres, on nous a dit qu'elle venait des plishtim. Delila, elle habite Benachal Sorek. Ce n'est pas l'endroit où sont forcément les plishtim. Et on ne dit pas qu'elle est plishtite. D'un côté, Delila, ce n'est pas un nom sémite, mais on n'est pas sûr qu'elle est plishtite. Mais les plishtim vont tout de suite la voir. Et on va se rendre compte qu'en fait, Delila, elle n'aime qu'une seule chose. Aola Mazé. Vayacharechen vayavisha benachal sorek vushma Delila. Vayalo alea sare plishtim vayomru la pati oto. וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו. ועשרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. Elle fait ça pour l'argent. C'est une mercenaire. Si ça avait été une plishtite, elle aurait fait ça pour la cause. Mais non, elle fait ça pour l'argent. Qu'est-ce que Shimshon a donc vu chez elle qui l'a fait tomber amoureux d'elle ? Eh bien, vous savez qu'on aime tous ce qu'on n'a pas. Le Midrash nous raconte une histoire qu'il y a un combat entre le Midrash dans Shirashirim Rabba nous dit qu'il y a un combat entre ce qu'il appelle Achiger et Asuma. Achiger, c'est celui qui est un handicapé, qui ne peut pas marcher. Suma, c'est l'aveugle. Le Midrash nous raconte que le combat entre le Chiger et les Souma n'est qu'une analogie, en fait, entre Agouf et Aneshama. Aneshama et Chigeret. Aneshama Chigeret. C'est-à-dire que l'Aneshama, il nishmatit, elle n'est pas Baolam Hazé. Agouf ou Souma, il ne voit pas les choses. C'est-à-dire que le Gouf, il est pauvre, il ne voit pas les choses. La Gemara nous dira que Shimshon aya chiger beshter aglav. Genre handicapé des deux jambes. Ce que c'est barou que la Gemara ne nous dit pas qu'il était béhémet handicapé. T'imagines tout ce qu'il a fait en fauteuil roulant ? Ah ! Non, ça veut dire que Shimshon aya kulo neshama. Tout ce qu'il fait Shimshon, c'est neshama. C'est mechouvan la olama elyon. Mechouvan dans la direction de ce que Hakadosh Baruch Hu veut. On avait déjà dit, Aviv Veimolo Yadou. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, Shimshon, c'est Beruach Hashem. Ou Khatichat Neshama dans un corps de Schwarzenegger parce qu'il fallait bien lui donner les moyens de réaliser cela. Mais il recherche à Olam Hazeh. C'est ce qu'il n'a pas. Et comme il recherche tellement Olam Hazeh, bien rien de surprenant qu'il tombe amoureux. Qu'il trouve dans cette femme qui est kol kula olam hazeh, parce que ce qui l'intéresse, c'est kesef, kesef, zeh itrabrut el olam hazeh, eh bien, il veut se rattacher à cela. Mais pourquoi il veut se rattacher à ça? Parce qu'il comprend ce que dit le Rav Kook. Que, évidemment, que pour pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu behemet, ça veut gamze, ve gamze. Le problème, c'est que sham ou yipol. Sham ou Yipol. Et pourquoi Sham ou Yipol? Parce que ou Oev Ota. Et finalement, donc, Lila essaie de lui faire dire c'est quoi le secret de sa force. Pendant deux, trois fois, il dit un faux secret. Et à chaque fois, les plichetim arrivent, les plichetim arrivent. Quoi, il est bête. Il ne comprend pas que sa femme est dans le coup. Bémet. Quoi, à chaque fois qu'il a dit le secret, genre, à sa femme la nuit, il y a les plichetim qui sont venus, ils ont fait exactement ce que... Bémet. Non, il n'est pas bête. Afalahava mekalkelet tashura. Et donc, quand finalement, eh bien, on nous dit, Vatomer Delila El Shimshon, Adena, Haet Tal Tabi, Vatedaber Elai Kezavim, Agidali Bema, Bema Teaser, Vayomer Elia, Im Targi, Et Sheva Machlifod Roshi, Im Amasech, il continue. Ce n'est que lorsque finalement, ויהי באמת סיקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות, ויגד לה את כל ליבו. ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי, כי נזיר אלוהים אני מבטן, אמי, אם גולחתי ושר ממני כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. קץ נפשו למות. מה זה קץ נפשו למות? שמשון קומפרן, que Zéou. Il comprend que c'est la fin du boulot pour lui. Le problème de Shimshon, on a dit à quel point il était nécessaire, mais le problème, c'est qu'il pense maintenant que ça doit toujours être comme ça, que ça doit devenir un idéal. Pour ne pas que ça devienne un idéal, Dieu lui fait comprendre que Igi Azman, Zéou, Katz Nafsholamut. Shimshon n'est pas un petit jeune qui est influencé. Shimshon est un tzadik mina tzadikim, gadol mina gdolim, navi. Et Shimshon comprend que Zéou, c'est volontairement qu'il donne le secret à sa femme. Parce qu'il comprend que maintenant, on doit retourner dans la partie globale. Ça y est, j'ai expliqué au Am Israël qu'il y avait des choses à faire, que des fois dans l'histoire, il faudra les faire. Mais il ne faudrait pas que vous pensiez que ça devient le mainstream. Donc, Zéo. À ce moment-là, il dit à Lila le vrai secret. Elle donne le secret. Les plichetim lui coupent les cheveux. Les plichetim viennent le prendre. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsqu'arrive la suite de l'histoire, eh bien, Shimshon est amené devant les plichetim et devient une bête de foire. Devient une bête de foire. Maintenant, on a dit, ça y est, le travail était terminé. Nachon, le travail pour les Bnei Israël est terminé. Mais pourquoi Shimshon dit Zochenina, Zochenina, Vachazkenina, Achapa, Mazé, Veinakma, Pahamachat, Ishtehenai? Pourquoi est-ce que Shimshon y demande rends-moi ma force une dernière fois? Cette fois, ce n'est pas pour donner un message aux Bnei Israël, puisqu'il a compris que ce message était terminé. Mais cette fois, c'est un message qu'il doit donner aux Plishtim, aux nations. Qu'à aucun moment on ne pourra tolérer que celui qui représente à un moment donné le peuple juif, qui lui-même représente le dévoilement de Dieu dans le monde, soit tourné en dérision. Le moment où Shimshon redemande sa force à Dieu une dernière fois, c'est pour montrer aux nations qu'ils ne peuvent pas impunément se moquer du peuple juif. Lorsque, durant la guerre des six jours, Moshe Dayan prendra la décision de détruire la septième marche, la fameuse septième marche de Hevron, de Maharat Amarpela, qui montait à l'entrée de la Mehara, qui était la marche qui, pendant des centaines d'années, était le symbole de l'humiliation juive, où les Arabes ne laissaient pas monter les Juifs plus qu'à la septième marche. Détruisant la septième marche, on vient dire « Iné, on ne laissera pas impunément l'honneur du peuple juif être bafoué. » Shimshon, lorsqu'il est attaché à Gaza devant les Plishtim et que tout le monde se moque de lui, Shimshon devient à ce moment-là le symbole du peuple juif de qui on se moque en exil. Il dit à Dieu, tu ne peux pas laisser les choses en l'état. La reine, c'est pas pour moi que je dis ça. Vayomer Shimshon tamot nafshim plishtim. C'est pas pour moi. Moi, j'ai compris que mon rôle était terminé. Mais tu ne peux pas faire en sorte que les Plishtim s'en sortent Beyad al-Ediona. L'enseignement que j'ai donné au Bnei Israël, qu'il fallait être des fois capable d'aller trouver les étincelles de sainteté, et dans toute l'histoire juive, ça va être le cas. Il faut maintenant faire passer un message aux nations que Am Israël ne sera jamais prêt à être traité de manière humiliante. Shimshon Agibor restera pour l'éternité Shimshon Agibor. Nous dirons nos sages, Shimshon se retrouvera en Gilgul dans la Neshama de Benayahu Ben Yehoyada, Nessi à Sanhedrin de David et de Shlomo. En d'autres termes, Shimshon nous dit la chose suivante. J'ai commencé en faisant des choses qui étaient en sous-marin. Mais viendra un temps où la lumière de Shimshon doit aussi passer par des chemins clairs et lumineux. Et lorsqu'on a l'union de Nishmat Shimshon et Nishmat Benayahu Ben Yehoyada, alors on peut avoir un Shemesh qui devient Shemesh Umagen Hashem Elohim. Shimshon, qui était à moitié de Dan et à moitié de Yehuda, a été celui qui a ouvert la voie par des chemins que la globalité d'Israël ne pouvait pas prendre, mais qui a été la voie qui, pendant les Shoftim, était une des voies qui devait être empruntée. La paracha de Shimshon est mentionnée en plein milieu du Sefer Shoftim, pour que tu saches que ni au début ni à la fin, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la voie centrale, mais c'est une voie qu'il faut savoir écouter et qui aura tout à fait son importance dans l'histoire d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Vatachel, roi Hachem, lefa'amo, et ce roi Hachem se termine de notre génération, lorsque nous pouvons enfin non plus rester un Shimshon, un Shemesh Katan, mais fort de l'arrivée de ma chère Ben David, devenir Shemesh Gadol, la Olam Kulo, qui aura commencé avec le petit Shemesh, Shimshon, Agibor, Shelanu. Voilà pour ce qui était de l'histoire de Shimshon. Et juste avant donc de rendre l'antenne, je vous dis que la semaine prochaine, nous terminerons notre immersion dans le livre de Shoftim. Ce sera la dernière, notre dernière étude du livre de Shoftim. Cette fois, nous nous attacherons à la dernière névoie de ce livre-là, qui sera la première véritable réunion du peuple juif, mais cette fois dans la souffrance et le sang. Mais ça sera la semaine prochaine. À bientôt, les amis!